Et j'ai encore le privilège de pouvoir prêcher l'évangile. Le message d'actualité, c'est de prêcher l'évangile. Parce que les chrétiens ont besoin de l'évangile et les non-chrétiens ont besoin de l'évangile. Quelquefois plus les chrétiens que les non-chrétiens. Parce que on oublie le message essentiel. Et donc, c'est toujours un privilège. C'est facile à trouver dans la Bible, puisque vous prenez le Nouveau Testament et vous avez les quatre évangiles qui commencent le Nouveau Testament. L'essentiel, c'est bien sûr que l'évangile soit à la base de notre vie et que ce soit l'évangile qui commence notre vie aussi, ou qu'on connaisse un commencement avec l'évangile. J'aimerais qu'on regarde dans l'évangile de Marc, je n'ai pas oublié Jean, mais momentanément, j'aime aussi Marc beaucoup parce qu'il est condensé, il n'y a que 16 chapitres, et c'est bien de lire l'évangile de Marc aussi. Bien sûr, tous les évangiles sont importants à connaître et à lire. Je me rappelle avoir vu une vidéo il y a longtemps d'un homme qui était aveugle, qui récitait avec puissance l'évangile de Marc du premier mot jusqu'au dernier mot, avec puissance, avec autorité. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est que ce n'était pas une lecture, il était aveugle, c'était quelque chose qu'il avait appris par cœur bien sûr, mais qui venait de son cœur aussi. Il prêchait l'évangile en le récitant. Et dans l'évangile de Marc, si on regarde au verset 35 du chapitre 4, eh bien, on a un passage qu'on connaît bien. C'est le passage où Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Alors, il y en a qui mettent ça sur leur faire part. Enfin, ce n'est pas eux qui mettent, c'est la famille qui met ça sur le faire part de décès. Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Et c'est intéressant de voir effectivement que ça peut symboliser la mort à soi-même. Vous savez que l'apôtre Paul a dit que nous qui sommes en Christ, nous sommes baptisés en sa mort et en sa résurrection, n'est-ce pas? Donc il y a plusieurs sens de la mort. Ici, je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort spirituelle à nous-mêmes, c'est-à-dire la mort en Christ. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que lorsqu'il dit cela à ses disciples, passant sur l'autre rive, eh bien, ils vont aller avec lui et probablement ils vont penser que ça va être une bonne traversée parce que Jésus est là. Mais il y a la tempête qui se lève. Et vous connaissez bien ce récit. Il y a la tempête qui s'agite sur la barque. Et les disciples sont dans un état émotionnel épouvantable. Ils essayent, j'imagine, bien que ce soit suggéré là dans le texte, ils essayent d'enlever l'eau qui rentre dans la barque. Ils ont tous les moyens pour essayer de contrôler la situation. Et mes amis, vous serez d'accord que quand nous paniquons, on essaye tout un tas de choses qui vont nous sauver. Et peut-être vous avez essayé vous-même de régler certaines situations parce qu'il y avait la tempête et vous voyez que la barque prend l'eau, que vous allez couler, que vous allez périr. Et on a ce merveilleux témoignage que Jésus est là dans la barque. Et lui, il dort. Il est dit ici dans la traduction que j'ai qu'il dormait sur l'oreiller. Et c'est très frappant. Il devait peut-être avoir les pieds dans l'eau. Il était secoué, le corps était secoué. Et il y a un mécanisme qui fait que quand on se trouve dans ce genre de situation et qu'on dort, eh bien on se réveille spontanément. D'accord, c'est un réflexe de survie. Jésus, Pas du tout. Pas besoin de ça. Il dormait profondément. Il dormait profondément parce qu'il savait que sa vie était dans les mains de Dieu. Est-ce que vous savez ce matin que votre vie est dans les mains de Dieu? Est-ce que vous êtes tranquille, même quand vous passez par des moments difficiles, par des moments d'épreuve, par des moments où ça semble être plutôt la mort que la vie? Est-ce que vous pouvez être comme Jésus? Peut-être pas. Alors les disciples, si vous êtes comme eux, eh bien, ils ont paniqué dans tous les sens et ils sont allés voir Jésus et ils l'ont réveillé avec des reproches. Ne vois-tu pas que nous périssons? Et on est souvent avec nos reproches envers Jésus, envers Dieu. Mais enfin, tu vois quand même ce que je traverse. Tu vois pourquoi tu ne fais pas quelque chose pour moi. Mais peut-être que le Seigneur veut faire quelque chose que tu ne soupçonnes pas. Il veut faire quelque chose de beaucoup plus profond que juste te tirer de la tempête, de juste te tirer de cet état de panique ou de mal-être. Le Seigneur Jésus a quelque chose de puissant pour toi. Et il est dit qu'il s'est réveillé et il a ordonné aux éléments de se taire, c'est-à-dire au vent, de se taire. C'est traduit comme ça, il a dit « silence, tais-toi ». Mais littéralement, il a dit, si on traduit littéralement, « silence, sois muselé ». Et c'est très frappant, cette expression, mais c'est très important, parce que lui était la parole. Jean chapitre 1 nous dit que Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est cette parole qui empêche à la mer de s'exprimer, au vent de s'exprimer, à la tempête de s'exprimer. C'est cette parole qui muselle, qui empêche de parler la mer et le vent et la tempête. Et est-ce que la parole de Dieu agit dans ta vie pour avoir l'autorité qui muselle toutes les autres voix? Parce que si Jésus a dit à la tempête « silence, tais-toi », c'est que la tempête est en train de parler. Elle est en train de s'exprimer. Elle est en train d'agir sur les disciples pour les conduire à des comportements de panique, pour les conduire à des comportements de crainte, à des comportements dans tous les sens, n'est-ce pas? Des comportements qui conduisent à la mort. Est-ce que la parole vivante de Christ peut dire avec autorité dans nos vies « silence, tais-toi » à toutes les voix qui s'adressent à nous pour nous faire croire que nous allons mourir? Est-ce qu'on a entendu cette parole? Il y a un passage dans Éphésiens 4, verset 8, qui dit, c'est mal traduit souvent, mais il est dit réellement, textuellement, que le Seigneur est venu amener la captivité en captivité. Il est dit dans la traduction souvent que il a amené des hommes captifs, mais ce n'est pas ça. Jésus a amené la captivité en captivité. Il a autorité sur la captivité et il enlève la captivité de nos vies. Il enlève, il muselle ce qui nous muselait, ce qui nous empêchait de prononcer les paroles du Seigneur, parce qu'ils auraient pu laisser le Seigneur dormir et dire au nom de Jésus, la tempête doit se taire. Mais ils n'ont pas pu dire ça, parce qu'ils étaient comme muselés. Et le Seigneur a donné l'ordre à la tempête, mais il a donné l'ordre aussi à ses disciples d'être libérés de cette impossibilité à prononcer les paroles qui pouvaient libérer la barque et les disciples. Est-ce que dans nos vies, on a cette parole? Est-ce qu'on a dans nos vies cette captivité qui est captive? Elle ne peut plus agir, la captivité agit sur nous, mais elle ne peut plus agir parce que Jésus a donné la parole qui la rendait captive. Et quand ils arrivent de l'autre côté, c'est pas le repos, c'est pas la tranquillité, c'est pas un moment où le Seigneur dit « Allez, on va se reposer sur la plage, on va se reposer sur le bord du lac, on va manger. » Ils espéraient peut-être ça. Jésus n'a pas dit « On va se remettre des émotions que vous avez eues, hein, vous avez eu peur, hein, faut se décontracter maintenant. » Ils arrivent dans un endroit où Jésus, en quelque sorte, avait un rendez-vous. Et la personne avec qui il avait un rendez-vous, c'est un démoniaque. Un homme, Matthieu nous dit qu'il y en avait deux en fait, mais il semble qu'il n'y en ait qu'un qui a été délivré, puisque ici les autres évangiles qui mentionnent ce récit parlent d'un démoniaque. Et cet homme était enchaîné dans les sépulcres. Les gens l'avaient enchaîné, la société, la municipalité l'avait enchaîné dans les sépulcres parce qu'il était dangereux. Et mes amis, ça symbolise la loi. La loi nous enchaîne et elle a raison de le faire. La société avait raison de le faire. Mais cet homme était lié par des chaînes et il était mis dans les sépulcres à cause d'un esprit qui le contrôlait. Et un esprit, c'est comme le vent, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on ne voit pas mais qui agit sur nous pour nous détruire si c'est un mauvais esprit. Le vent, si je vous demandais une définition du vent, vous ne pourriez probablement pas me donner une définition du vent. Vous diriez, le vent, c'est les feuilles qui bougent, c'est les arbres qui se plient, etc. Vous allez définir le vent par ses effets. Eh bien ici, c'est la même chose, un mauvais esprit, on ne comprend pas bien ce que c'est. Mais on voyait les effets sur la vie de cet homme. Il se faisait du mal, il vivait dans les sépulcres et il fallait l'enchaîner parce qu'il était trop fort à cause de ses mauvais esprits. Le Seigneur est intervenu de la même façon qu'il est intervenu avec le vent. Il est intervenu pour ordonner que cet homme soit libéré de ses chaînes. Mais il ne s'agissait pas des chaînes physiques, parce que ces chaînes physiques que les gens avaient mis étaient nécessaires, mais il les cassait de toute façon. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour nous libérer des chaînes de la loi. Mais ces chaînes de la loi est là pour nous empêcher de faire des actes qui pourraient être graves, n'est-ce pas? Et donc les chaînes étaient autour de lui pour l'empêcher de faire du mal, pour l'empêcher de tuer. Mais Jésus n'a pas libéré cet homme de ces chaînes-là, parce que de toute façon il s'en libérait. Et les hommes et les femmes qui sont liés par la loi, eh bien, quelquefois, ils sont plus forts que ces chaînes de la loi qui les entourent, qui les lient, et ils s'en libèrent par eux-mêmes. Mais Jésus est venu pas pour traiter le symptôme, il est venu pour libérer la personne fondamentalement. Et il a prononcé quelques paroles qui avait autorité sur cet homme qui était lié par les mauvais esprits. Et cet homme était libre. Le message de l'Évangile, c'est un message de libération, comme on l'a entendu dimanche dernier. Et c'est un message de libération instantanée, quand il s'agit du salut. Si vous êtes lié par des chaînes, parce qu'on a dû mettre des chaînes autour de vous. La loi, de toute façon, constitue des chaînes. Vous avez les gens qui sont très attirés par certaines choses. N'est-ce pas? Il faut des chaînes pour les empêcher de faire ces choses-là. Est-ce que vous avez été libérés de la puissance qui vous amène à faire ces actes-là? Est-ce que vous pouvez dire, j'ai rencontré Jésus, j'ai entendu la parole qui m'a libéré, la parole de vie qui m'a libéré? Ou est-ce que vous êtes encore troublé? Est-ce que vous êtes encore tourmenté? Et vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Donc voilà ce qui arrive aux disciples lorsque Jésus leur dit, allons sur l'autre rive. Ce n'est pas du repos, c'était l'agitation, c'était les démons qui se manifestent. Mais au-delà de ça, au-dessus de ça, il y a la puissance de Jésus qui libère. Et cette puissance, elle est là ce matin pour vous libérer. Nous prêchons Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, qui est allé sur l'autre rive pour notre salut, pour libérer ceux qui sont enchaînés, qui sont liés par des choses, des puissances qui les troublent. Et lorsqu'il a fait ce miracle, il a dit, cet homme qui était libéré voulait suivre Jésus, voulait aller avec Jésus. Il a suivi Jésus jusqu'à sa mort. Mais Jésus lui a dit, va dans ta famille, plutôt, va dans ton territoire, là où tu es connu, et rends témoignage. Alors, est-ce qu'il a dû faire une conférence en rassemblant des gens, en essayant de les convaincre qu'il avait été transformé? Il n'avait pas besoin de dire un mot. Il n'avait pas besoin, parce que son corps était la parole. Les gens l'ont croisé, probablement ont dit « bonjour monsieur » et ensuite en disant « mais en fait, c'est cet homme dangereux. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Les gens venaient vers lui, c'est pas qu'il avait besoin d'aller vers les gens, j'imagine en tout cas. Les gens venaient vers lui pour voir si c'était le même. Si c'était actuellement, ils auraient pris des photos de lui. Mais les gens étaient tellement surpris de voir comment Dieu avait transformé. C'est ça l'œuvre de l'Évangile aujourd'hui. C'est ça que la nation et l'Europe a besoin. Et c'est ce qu'on empêche de plus en plus. Il faut vous méfier de ceux qui prêchent l'Évangile. Et de plus en plus, on muselle ceux qui prêchent l'Évangile, ceux qui ont la parole de vie et de libération. Mais les chaînes qui peuvent être mises autour de nous, l'agitation que cela peut créer, eh bien, Jésus est au-dessus et il a cette parole qui dit « silence, tais-toi » à toute autorité qui s'exerce sur nous. Cet homme devait être triste, il aurait voulu être avec les disciples. Et Jésus a dit à ses disciples, on va retourner sur l'autre rive. Ça symbolise la résurrection. Et si la mort avec Christ, ça veut dire qu'on a connu la voix de Christ, qui nous a dit très clairement, qui a dit à toutes les puissances, les esprits, les forces qu'on ne peut pas expliquer, mais dont on voit les effets, qui a pu dire à ses forces, silence, tais-toi, qui a pu nous libérer de ses puissances. Si ça, ça représente la mort avec Christ, il y a aussi la résurrection avec Christ. Et c'est quand Jésus, symbolisé ici en quelque sorte, par le fait que Jésus dit à ses disciples, on va retourner sur l'autre rive. Et qu'est-ce que l'on trouve sur l'autre rive quand il arrive? Il arrive qu'il y a un chef de la synagogue nommé Jaïrus qui vient à sa rencontre et qui lui dit « Ma fille est à l'extrémité, elle va mourir, Elle vient dire, il vient dire ça à Jésus. Et j'imagine, parce que c'est le cas à bien des reprises dans l'Évangile, Jésus était touché. Il était touché qu'un père vienne pour dire « Ma fille est à l'extrémité ». Mais il semble ne pas être préoccupé par ça. C'est comme quand on est venu dire que Lazare, son ami, était mourant. Il est resté 2 jours encore là où il était. Il n'a pas commencé à paniquer. Il n'était pas comme ses disciples dans la barque qui allait d'un côté et d'autre. Et quelquefois, les gens nous disent « Il faut faire quelque chose, il faut faire vite quelque chose. » Jésus n'avait pas de téléphone portable dans sa poche et devoir répondre à un SMS dans les 30 secondes qui suivent le message reçu parce que la personne va commencer à s'inquiéter, ben pourquoi elle ne répond pas? Si vous m'envoyez un SMS, comptez 30 ans plutôt que 30 secondes pour que je réponde. Jésus n'était pas stressé parce qu'il savait que le miracle qu'il devait faire, c'est un miracle de résurrection et pas un miracle de guérison. C'est un miracle de résurrection. On est revenu sur l'autre rive. On est revenu à la vie. Et qu'est-ce qui le retarde? Il est retardé par une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Ça fait 12 ans qu'elle perd la vie. Vous savez que pour les Hébreux, le sang représente la vie. Et donc elle perdait la vie depuis 12 ans. Et peut-être dans votre vie, dans ce que vous connaissez, il y a quelque chose qui se perd depuis 12 ans, depuis longtemps. Peut-être quelque chose qui a commencé à mourir, quelque chose qui s'est éteint dans votre vie. Et cette femme, elle était là et elle était craintive, elle avait peur. Elle avait peur parce qu'il y avait beaucoup de monde. Elle était forcément affaiblie par ses pertes de sang. Mais elle a pensé, si je puis seulement discrètement toucher le bord de Jésus, du vêtement de Jésus. Elle avait le message de l'Évangile dans son cœur. Je ne sais pas comment, mais elle avait dû entendre, elle avait dû observer ce que Jésus était capable de faire. Et elle a pensé, si je peux seulement toucher son vêtement. Quelquefois on prêche de la théologie, quelquefois on prêche des choses compliquées. Et le message de Jésus, le message de l'Évangile, il est tellement transmis par cette femme, insignifiante, malade, rejetée. Elle est allée voir les médecins. Les médecins l'ont couverte de chaînes, non pas littéralement cette fois-ci. Mais ils ont mis des choses pour remédier. Ils ont pris des seaux, ils ont jeté l'eau de la barque de sa vie pour éviter qu'elle périsse. Les médecins ont donné des traitements, mais il n'y avait rien qui marchait. Et l'espérance de cette femme devait être très faible après 12 ans de souffrance comme ça. Elle a touché discrètement. Parce qu'elle ne voulait pas que ce soit connu. Je me rappelle moi-même, lorsque le Seigneur a commencé à toucher mon cœur, je ne voulais pas que ce soit connu. Je voulais donner ma vie au Seigneur. Je voulais suivre le Seigneur, mais que ce ne soit pas connu. Évidemment, ce n'était pas possible. Elle a touché le vêtement de Jésus, et Jésus a dit « Quelqu'un m'a touché ». Alors dans Marc, il est dit, ses disciples lui dirent, « Mais Seigneur, tu vois bien qu'il y a une foule autour de toi, les gens te pressent, etc. Pourquoi dis-tu que quelqu'un t'a touché? Il y a plein de gens qui t'ont touché. » Non, il y a une personne qui l'avait touché. Et ce passage est important. parce que il fallait que cette femme touche Jésus. On va voir la suite avec la fille de Jaïrus. Ce qui s'est fait n'était pas à condition que la fille de Jaïrus fasse quelque chose parce qu'elle était morte. Mais dans la résurrection, dans la vie de résurrection, il y a quelque chose que l'on doit faire. Et ici, c'était toucher le vêtement de Jésus. Est-ce que ce matin, vous voulez toucher le vêtement de Jésus? Vous allez dire, mais Jésus, il est plus sur la terre depuis 2000 ans. Jésus est ici ce matin. Il est ici et il veut vous parler. Et il veut vous dire qu'il est touché par le fait que vous vouliez le toucher. Et si c'est le cas, alors il va savoir que quelqu'un l'a touché. On va dire, oui, mais l'église, il y avait une cinquantaine de personnes à l'église. Tout le monde t'a touché. Et Jésus va dire, non, il y a une personne qui m'a touché. Il y a une personne qui a touché Jésus particulièrement ce matin. Il le saura. Peut-être ce sera deux, trois personnes. Mais c'est quelqu'un qui va faire la démarche de dire, Seigneur, je veux spirituellement, je veux toucher ton vêtement. Elle a été guérie. Mais Jésus n'est pas allé voir en secret cette femme en disant, écoute, je comprends que tu as peur. Donc, rentre chez toi. Il lui a fait dire publiquement, oh, là j'ai tendance à dire, Jésus, tu devrais être comme moi je dirais plutôt, je comprends que tu as peur, tu es guéri, rentre chez toi. Mais Jésus a voulu qu'elle confesse, qu'elle le dise devant tout le monde, ce qui s'était passé. Et c'est peut-être ce que le Seigneur vous demande de faire. Vous voulez tenir secret ce que le Seigneur a fait, mais le Seigneur vous demande de le dire. Ça se voit si on vous connaissait avant, vous étiez sans vie, et là, d'un seul coup, vous avez obtenu la guérison, il y a la joie. Ça se voit, mais il faut le dire, parce que il est la parole. Il est la parole. Et il veut que vous puissiez prononcer ces paroles de délivrance. Il veut que vous puissiez donner ce témoignage. Mais ça doit se voir, bien sûr, dans vos vies, au préalable. Ensuite, retardé par la foule, il arrive chez Jaïrus. Et chez Jaïrus, il trouve une ambiance de pleurs. Je crois que c'était en grande partie des pleureuses professionnelles qui étaient louées pour les enterrements, qui venaient faire du bruit en pleurant, etc. Ça donnait une ambiance de deuil. Probablement des gens qui n'étaient pas tristes. Mais il y avait aussi, bien sûr, les parents qui étaient tristes parce que la petite fille était morte. Et Jésus a dit, elle dort. Il avait dit ça pour Lazare aussi, alors qu'il savait qu'il était mort. Mais c'est parce que pour Jésus, la mort physique, ça n'est pas la mort. Vous savez que dans le jardin d'Éden, c'est là où le diable a changé la définition de la mort. Il a dit, Dieu vous a dit que si vous mangez le fruit, vous mourrez. Le jour où vous mangez le fruit, vous mourrez. Il a dit, vous ne mourrez pas. Et il parlait de la mort physique. Dieu parlait de la mort spirituelle. Le péché nous fait mourir spirituellement. Mais ils ne sont pas morts physiquement ce jour-là. Ils sont morts spirituellement. Et la mort physique n'est pas la mort. Pour Jésus. Pour Lazare, il a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Pourtant, il savait que Lazare allait mourir. Il a dit, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Et Ici, c'est la même chose. Il voulait manifester la gloire de Dieu au travers de la vie de cette jeune fille. Alors il a demandé à la famille s'il pouvait aller avec deux de ses disciples dans la chambre où était allongé le corps de cette jeune fille. Et il a pris la main de cette jeune fille et lui a dit « Talitha Koumi ». En araméen, ça veut dire « jeune fille, je te le dis, lève-toi ». C'est la parole de Jésus. La parole de Jésus sur les éléments qui s'agitent contre nous, c'est « sois muselé, tais-toi ». La parole de Jésus aux puissances qui nous agitent, qui nous troublent, qui sont à l'origine des chaînes qu'on a pu mettre sur nous, la parole c'est « sortez de cet homme, de cette femme ». La parole de Jésus à celle qui perdait du sang, qui perdait sa vie, c'était de venir pour qu'elle rende témoignage et qu'elle soit libérée, qu'elle soit pardonnée de son péché. Et cette parole ici, c'était « jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Elle a dû obéir dans sa mort. Elle a dû se lever sous son lit. Et Jésus n'a pas demandé qu'on fasse une réunion de louange et d'adoration. Il a dit « donnez-lui à manger ». J'aime bien ça. Parce que Jésus, à combien de reprises, il a dit « il faut donner à manger ». Il y a des gens qui pensent que la vie spirituelle, c'est une vie d'ascète où on va se priver de tout. Mais combien de fois Jésus a dit « il faut qu'ils aient à manger ». Et là, on apprend que cette jeune fille avait 12 ans aussi. La femme avait perdu le sang pendant 12 ans et cette jeune fille avait 12 ans et le Seigneur l'a ressuscitée. Et ce matin, peut-être c'est la situation dans laquelle on a besoin, on se trouve et on a besoin d'entendre la voix de Jésus qui nous dit « jeune fille, jeune homme, ou homme, femme, lève-toi ». Est-ce qu'on est prêt à se lever sous l'ordre de Jésus ? Est-ce qu'on peut témoigner qu'on est mort avec Christ, que les puissances qui nous troublaient se sont tues, elles ont été muselées ? Que Jésus nous a libérés de cette perte de sang, cette perte de vie spirituelle, et il nous a donné la vie de résurrection. Il a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. » Et il lui a demandé, « Crois-tu cela ? Est-ce que tu crois ça ?» Et Marthe, qui était rationnelle, elle a dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. » Et c'est sur la base de cette confession, cette verbalisation, le fait de prononcer de tout son cœur, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu », que la libération de son frère pouvait être faite, de Lazare. Et c'est la même chose pour nous ce matin, sur la base de ce que l'on avait déclaré, alors qu'on voulait le secret, mais le Seigneur demande qu'on le déclare. Eh bien, sur la base de cette déclaration du fond du cœur, premièrement, peut-être chez soi, puis après en le disant à d'autres, en disant à des gens qui sont dans l'Église, qui sont affermis en Christ, eh bien, moi, je veux suivre le Seigneur. Je veux donner ma vie au Seigneur. Je veux entendre le Seigneur qui s'exprime. Je veux que tout ce qui muselle la parole de Dieu soit enlevé. Que toutes les voix, les choses que j'ai entendues qui m'ont maudit, qui m'ont fait du mal, qui m'ont blessé, qui m'ont lié, qui m'ont meurtri, soient muselées, toutes ces voix-là soient muselées pour que la parole de Dieu s'exerce dans ma vie. Est-ce que ce matin, est-ce que vous êtes prêt à ça ? Est-ce que vous êtes prêt à demander au Seigneur de venir dans votre vie ? et il le fera. Le Dieu de l'Évangile, c'est le même aujourd'hui, c'est Jésus. Mais Jésus qui est mort et qui est ressuscité, qui est passé de l'autre rive, et il est revenu à la vie, revenu à la rive initiale, pour vous et pour moi. Alors on va prier, et juste pendant ce moment de prière, dans votre cœur, demandez au Seigneur ce que vous avez à demander au Seigneur. Je ne vais pas dire, imaginez que Jésus est ici. Il est ici. Il n'y a pas besoin d'imagination. Il est ici. Il n'est pas en chair et os, mais son esprit est à l'œuvre. Le vent, vous ne le définissez pas, sauf si vous êtes physicien. Vous ne pouvez pas trouver. Mais vous allez dire, je sais qu'il y a du vent quand je vois les arbres qui bougent. Eh bien, je sais qu'il y a l'Esprit de Dieu quand on voit les cœurs des hommes et des femmes qui sont touchés par la grâce de Dieu. Et l'Esprit de Dieu rend Jésus présent. Et ce matin, est-ce que vous allez répondre dans votre cœur, dans le silence de votre cœur? Oui, Seigneur, j'ai besoin que tu agisses parce que je suis dans la barque et je suis en train de couler. Oui, Seigneur, j'ai besoin d'agir parce qu'il y a des puissances dans ma vie qui s'exercent sur moi. Et je suis lié. J'ai essayé de me contrôler avec des chaînes, mais toutes les chaînes ont cassé. Ou bien, oui, Seigneur, ça fait 12 ans que je perds du sang. Pas physiquement, mais ma vie se perd depuis tant d'années. Et j'ai besoin de toucher le bord de ton vêtement. Ou Seigneur, je suis mort et j'ai besoin de la résurrection. On va prier dans vos cœurs. Faites appel à Jésus. Il est la réponse pour l'humanité aujourd'hui. Seigneur, je te demande d'agir dans les vies, d'agir dans ma vie premièrement, par le Saint-Esprit. Seigneur, que ta puissance se manifeste et que, Seigneur, chacun voit la libération, voit que la captivité dans laquelle elle se trouve, chaque personne voit que la captivité dans laquelle elle se trouve est emmenée captif par Jésus-Christ, de sorte à ce que la personne devienne libre. Seigneur, tu n'enlèves pas les chaînes de la loi, mais tu enlèves ce qui fait que la loi constitue une chaîne. Seigneur, tu enlèves le péché, tu enlèves les esprits qui nous troublent. Et Seigneur, tu donnes aussi la guérison de la perte de vie. Tu donnes la guérison, Seigneur, à ceux qui se meurent en perdant du sang, de la vie spirituelle depuis tant d'années. Et Seigneur, tu donnes la résurrection à ceux qui sont morts. Fais cette œuvre, Seigneur, dans nos vies à chacun, afin que l'Église, alors que cette année nouvelle, cette année académique commence, Seigneur, nous voulons voir des miracles. Seigneur, des vies transformées. Afin qu'il n'ait pas, ces personnes n'aient pas besoin de rendre témoignage, parce que ça se voit, mais que leurs paroles de témoignage puissent expliquer pourquoi ça se voit et pointer les regards des autres vers Jésus, celui qui est l'auteur des miracles. Amen.